Vous êtes sur RTL.
18h. Place à l'info tout de suite, RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'info avec vous et avec l'ensemble de la rédaction. Ce soir à la une, 10 millions d'ados et d'adultes ne sont toujours pas vaccinés en France. Le chiffre est tombé maintenant. Comment les convaincre? La stratégie change. Convocation à domicile, bon de transport. Nous allons tout vous expliquer sur ces nouvelles initiatives ciblées. Et puis, vous entendrez aussi dans RTL Soir les premiers employés suspendus car incapables de présenter leur passe sanitaire. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des jouets plus chers à Noël. Il faut s'y préparer. Combien et pourquoi? On vous dit tout dès le début de ce journal. Paris rejoindra-t-elle les Hauts-de-Seine, l'Essonne ou les Yvelines? Décision de justice attendue sur le pass sanitaire dans les centres commerciaux. Les arrêtés de suspension se multiplient. Ils ont distribué des couches, des tampons, des serviettes hygiéniques et accompagné une population démunie. Les opérations d'évacuation en Afghanistan racontées par un militaire français, son récit touchant à suivre. Les courses à Dieppe. Tout à l'heure, il fallait jouer le 4, le 12, le 13, le 11 et le 5.
Dans un quart d'heure, l'Europe face au défi de l'immigration afghane. Hier, les États-Unis ont quitté Kaboul, mais sur place, toujours jusqu'à 1,5 million de candidats au départ. Peut-on, doit-on les accueillir? Comment? Le patron de Frontex, l'agence qui surveille les frontières des 27, sera notre invité depuis Bruxelles. Dans une demi-heure, les dessous de l'actu. Toute la semaine, ils racontent leur 13 novembre des témoignages RTL choc, puissants, à quelques jours du procès des attentats. Ce soir, le patron de la BRI à l'époque se confie sur l'assaut du Bataclan. À suivre aussi, Laissez-vous tenter dernière. Cadmera de retour au cinéma. Visiblement, ça vaut le coup. Et puis à 18h40, on défait le monde. 20 minutes de découverte, de curiosité avec vous, Cyprien Signy et votre bande. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Le programme.
Dans Défait le monde, tous les meilleurs conseils sur les foires au vin qui démarrent en ce moment partout en France, ça va vous intéresser. Et puis il y aura aussi des gros mots, des écoliers chinois et un tour d'Europe en camion.
À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet, du débat autour des milliards à venir du plan Marseille et autour du départ américain d'Afghanistan. Et puis tout au long de l'émission, bien entendu, vos points météo. Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance en un mot.
Du soleil pour tout le monde après dissipation des grisailles matinales.
Le détail dès la fin du journal, à tout à l'heure.
RTL Soir.
L'inflation jusque sous le sapin. Pour le Père Noël, la facture s'annonce un peu plus salée cette année.
Bonsoir Pierre Herbulot.
Bonsoir.
Ah, clairement, le Père Noël, ce n'est pas vous. Hein. Vous avez rencontré, en revanche, les fabricants de jouets aujourd'hui avec un chiffre en tête, dont d'ailleurs on vous a parlé à la mi-journée sur RTL, cette hausse des prix de 1,9% enregistrée au mois d'août. Et vous leur avez posé la question à ces fabricants. Ces augmentations vont-elles aussi concerner les futurs cadeaux de Noël? Leur réponse a été claire.
Malheureusement, c'est un oui, tout simplement parce que les jouets sont plus chers à fabriquer cette année, que ce soit en Laponie ou en Asie. Plusieurs explications à ça que vous détaille Corinne Brenet, directrice développement chez Lancet, spécialisée dans les jeux de société et les loisirs créatifs.
Entre la crise sanitaire qui a beaucoup touché le marché, les hausses des prix des matières premières, le plastique, le bois, le papier, et aussi la hausse des prix des transports, notamment venant d'Asie, avec des prix des containers qui ont vraiment augmenté.
5 à 8 fois plus cher que l'an dernier la location d'un container, c'est énorme, ce qui fait d'ailleurs que plus un jouet est gros, plus son coût de fabrication augmente. Ouais. 6% en moyenne chez Lancet, jusqu'à 10% chez d'autres constructeurs.
Alors ça, c'est pour les explications. Pierre, à la fin, ça va nous coûter combien?
Alors, un peu plus cher, j'aimerais vous donner une réponse plus claire que ça, mais les prix ne sont pas encore fixés par les distributeurs, grandes surfaces, magasins spécialisés, les négociations sont en cours. J'ai pu en discuter avec le patron de Jouet Club, il m'a assuré que le groupe était prêt à rogner un peu sur ses marges pour limiter les augmentations. Mais ça ne suffira pas à les effacer totalement.
Et il y aura donc des augmentations en bout de chaîne. Précision de Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Ils sont encore 10 millions. 10 millions de Français de plus de 12 ans ne sont pas vaccinés.
Chiffre dévoilé à la mi-journée par le ministère de la Santé qui doit maintenant faire de la dentelle pour cibler au mieux ces non-vaccinés qui se répartissent en deux catégories.
Odile Pouget, vous êtes la spécialiste santé de RTL. Première catégorie, les plus jeunes. C'est un sujet évidemment très sensible à l'approche de la rentrée.
Oui, collègue. collégiens, lycéens, 2 millions d'entre eux sur 5 au total n'ont pas encore reçu leur première dose. On va donc aller les chercher dans la plus grosse académie de France, par exemple, celle de Versailles. 24 communes où le taux de vaccination est en dessous de 30% ont été identifiées et des équipes mobiles avec parfois le renfort de la Croix-Rouge vont se déplacer dans les établissements scolaires. Selon les informations recueillies par RTL, à Paris, dans les collèges et lycées de 3 arrondissements de l'est de la capitale à la population plus précaire, on va installer des centres éphémères de vaccination au sein des établissements ou alors proposer aux jeunes de les emmener en car dans des centres avec des horaires dédiés.
Odile Pouget, vous restez avec nous. D'abord, illustration de ces opérations ciblées pour aller chercher les plus jeunes à l'université de Dunkerque. Injection possible sur le campus. Franck Hanson s'est rendu sur place pour RTL.
Les amphis ne sont pas encore remplis, mais près des bureaux d'inscription, les étudiants volontaires peuvent recevoir leur injection de vaccin. Un service utile, notamment pour Rania, une jeune Marocaine inscrite en master.
Comme ça, on ne va pas galérer à chercher ou se faire vacciner. Ça peut aider un peu, au moins minimiser un peu les risques, pouvoir retourner en classe. Être présent devant un professeur, ce n'est pas derrière un écran.
À Dunkerque, un secteur qui a connu des taux de contamination record, plus de 80% des 18-24 ans ont déjà été vaccinés une première fois, ce qui permet un retour en cours en présentiel, se félicite le président de l'Université du Littoral, Hassan Sadok.
Moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour que cette année sera une année normale. Il y a des étudiants qui ont souffert. Il n'y a pas mieux qu'un cours en présentiel. Pas d'obligation, mais en tout cas, on ne pourra pas dire qu'on ne nous a pas donné l'occasion de le faire.
Pour autant, certains élèves se sentent un peu contraints de franchir le pas.
Oui, j'ai peur, mais je n'ai pas le choix. Je vais chercher un stage, c'est obligatoire. J'ai l'impression qu'on m'oblige de quelque chose que je ne veux pas.
Sur le campus dunkerquois, le pass sanitaire reste obligatoire pour les soirées étudiantes.
Le reportage de Franck Hanson, donc à Dunkerque pour RTL. Odile Pouget, on revient vers vous. On vient de parler des plus jeunes, mais la seconde catégorie qui pose problème, c'est toujours les plus âgés. 600 000 personnes de plus de 80 ans n'ont encore reçu aucune injection et surtout, ça continue de stagner.
Oui, 600 000, cela correspond à 85% de cette tranche d'âge. Pour vous donner une idée, début août, on était à 82%, donc ça ne bouge pas beaucoup. Et là, ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui vont passer à la vitesse supérieure, avec l'envoi d'une convocation-invitation à chaque senior concerné, avec une date, un lieu, un créneau horaire pour qu'ils puissent se faire vacciner et dans l'enveloppe, un bon de transport pour que ces gens âgés, malades, parfois souvent isolés, n'aient pas à se soucier du déplacement. L'expérimentation vient d'être lancée dans 2 départements, Vaucluse et Seine-Saint-Denis. 2000 courriers sont déjà partis.
Les explications d'Odile Pouget pour RTL.
Mais ce matin, lors d'un déplacement dans le Bas-Rhin, Jean Castex a assuré que la France était sur le chemin d'un retour à la vie normale. Ça va finir par devenir compliqué de s'y retrouver. Après les Yvelines, après l'Essonne, après le Haut-Rhin, la justice a suspendu aujourd'hui l'obligation de présenter un pass sanitaire dans les centres commerciaux des Hauts-de-Seine. La profession dénonce une confusion totale.
Et ce n'est peut-être qu'un début, puisque le tribunal administratif de Paris s'est aussi penché aujourd'hui sur une demande de suspension du pass dans la capitale. Alors on attend encore là à l'instant T à 18h08 la décision. Mais vous avez assisté à l'audience Guillemette Franquet. Cette demande de suspension dans les centres commerciaux du pass sanitaire, elle émane de qui et pourquoi ?
Eh bien, de deux particuliers. Une vieille dame, tout d'abord, 82 ans. Elle n'est pas vaccinée, donc impossible pour elle d'aller au centre Italie 2, comme elle en avait l'habitude. C'est son avocat qui vient l'expliquer à l'audience. Elle a du mal à marcher, donc elle ne peut pas aller plus loin et les petites surfaces sont trop chères pour elle. L'autre requérant faisait aussi ses courses à Italie 2 pour des questions d'économie. Marc, 44 ans, n'est pas non plus vacciné. Lui est venu au tribunal. Il trouve qu'on manque de recul encore. Il préfère attendre. Et pour lui, c'est plus sûr de faire ses courses dans des grands espaces aérés plutôt que de s'agglutiner dans des petits commerces. Mais pour le représentant de la préfecture, venu défendre l'arrêté, ses arguments tiennent difficilement. Les deux particuliers habitent à quelques centaines de mètres de petits magasins. Donc ils ont bien accès à des produits de première nécessité. Quant aux écarts de prix, ce n'est pas la loi de s'en préoccuper, selon lui, et d'ironiser. On n'est pas dans une pub Leclerc.
La décision attendue donc pour Paris, ce sera demain, ça on en est sûr, pour ce qui concerne le Val d'Oise et la décision de justice pour le pass sanitaire dans les centres commerciaux. À la veille du déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille, une opération anti-drogue lancée aujourd'hui dans une cité des quartiers nord, annonce du ministre de l'Intérieur sur Twitter qui évoque 4 interpellations et des saisies de drogue et d'argent liquide.
Marseille où le chef de l'État va rester 3 jours avec notamment un plan qui va se chiffrer en centaines de millions d'euros. RTL vous l'a révélé à la mi-journée. 1 milliard, déjà on connaît cette somme pour la seule rénovation des écoles. Votre journal se poursuit dans un instant dans RTL Soir. Et cette fois c'est fait. Mais oui, le Real Madrid a fait son marché en Ligue 1. Tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. RTL Soir vous accompagne. 18h11, la suite de votre journal, Marion Calais. À présent, le récit d'une évacuation hors norme.
Celle à laquelle ont procédé les militaires français en Afghanistan après la conquête de Kaboul par les talibans. C'est le contre-amiral Jacques Fayard qui a géré les opérations depuis la base d'Abu Dhabi, un pont aérien dont il a décrit cet après-midi l'ampleur et les particularités pour la prise en charge de personnes bien plus démunies qu'il ne l'imaginait.
On était parti pour 3 jours pour 160 Français et on a duré 13 jours pour 3000 ressortissants évacués. Donc ça a complètement changé la façon dont on était configuré. On voyait arriver en base arrière aux Émirats des populations d'hommes, de femmes et d'enfants dans des situations sanitaires dégradées. On a acheté des vêtements, on a distribué des chaussures pour des enfants qui arrivaient sans chaussures. On a commandé des tétines, des biberons, des couches culottes, des serviettes hygiéniques. Parce que la population qu'on a vu arriver n'avait rien à voir avec les ressortissants français qu'on s'attendait à voir arriver au début. J'ai vu un chef d'escadron, le commandant du 1-7 Provence, distribuer des cartons d'embarquement à des familles afghanes. J'ai vu le chancelier de mon état-major, adjudant-chef, distribuer des couches culottes. Tout le monde s'y est mis et on a tenu. Moi, j'ai un de mes chefs d'escadron qui est un vieux militaire et qui m'a dit « Amiral, c'est la plus belle mission de ma vie ».
La solidarité décrite par le commandant en chef des forces armées françaises aux Émirats arabes unis, il répondait pour RTL à Brice du Génie, noté qu'à Kaboul, après le départ américain, les talibans ont paradé toute la journée à l'aéroport. Le président américain Joe Biden doit s'exprimer ce soir.
Et dans quelques minutes, notre invité sera le patron de Frontex, l'agence européenne qui surveille nos frontières. Il sera notre invité. Avec lui, on va se poser cette question. Comment accueillir les demandeurs d'asile afghans? Peut-on les accueillir puisqu'il n'y a plus désormais de pont aérien? RTL, 18h13. Il voulait Mbappé. De ce côté-là, ce n'est toujours pas fait. Mais les Madrilènes auront au moins recruté un Français pendant ce mercato qui s'achève à minuit ce soir.
Reste encore quelques heures, sait-on jamais. En tout cas, la recrue, c'est Eduardo Camavinga qui évoluait jusque-là à Rennes. À 18 ans, le milieu de terrain s'apprête à franchir un sacré palier, Nicolas Georgerot.
Oui, prêt à entrer dans un nouveau monde, comme lorsque ses parents, en 2003, ont fui l'Angola et se sont installés à Fougères, en Ille-et-Vilaine. Le judo comme première passion, le foot ensuite, à partir de 6 ans. Les superlatifs s'enchaînent, maturité étourdissante, en Ligue 1 à 16 ans et 4 mois, international à 17, le plus jeune depuis 1914, Camavinga plus précoce encore que Kylian Mbappé, qu'il tient en modèle et en estime.
Kylian, il a placé la barre très haute, c'est une source d'inspiration pour tous les jeunes. C'est sûr, j'ai commencé très tôt en Ligue 1, par mon travail, et c'est arrivé tôt. Et il ne faut pas trop se prendre la tête et vivre au jour le jour et profiter de chaque instant.
Les sourires, l'insouciance ont disparu depuis un an. La saison dernière a été mitigé, entourage bousculé, changement d'agent, de représentant. Mais le milieu de terrain gaucher d'1m82 veut basculer dans une autre sphère. Manchester United, Chelsea, le PSG surtout étaient à l'affût. Après 88 matchs sous le maillot rennais, Camavinga est persuadé d'avoir les épaules assez larges pour s'imposer dans le club aux 13 Ligues des Champions.
Camavinga donc
Kenavo, Eduardo.
Real Madrid.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Pluie et fraîcheur, bon, vous vous en êtes peut-être plein cet été.
Évidemment.
Mais ça n'a pas que des inconvénients puisque les champignons sont arrivés plus tôt cette année. Une cueillette qui a même débuté dès le mois de juillet. Normalement, c'est plutôt à l'automne, au moment des mûres, on ramasse aussi les champignons. Le pendant, et là les autorités sanitaires inquiètent, c'est qu'on enregistre déjà plus de 300 cas d'intoxication aux champignons, dont 3 ont été mortels.
Ah oui.
Prudence donc en cette période de récolte.
Ça c'était votre bonne nouvelle. D'accord.
Les champignons sont la plus
tôt. Oui, d'accord, très bien. Ne me demandez pas où je suis ce week-end, je vais chercher les champignons. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy...
On oublie la pluie.
On oublie la pluie. En plus, aller chercher les champignons sous 25 degrés, c'est quand même assez étonnant.
C'est vrai. On a du beau temps.
temps demain pour tout le monde, comme ça pas de jaloux. Alors, quelques bémols toujours, hein, c'est vrai, le matin, il y aura encore pas mal de grisailles entre le Nord-Bretagne et les Ardennes. Faudra être un petit peu patient, mais ça va se dissiper. Ensuite, vous profiterez d'un beau soleil, comme partout ailleurs, grand ciel bleu toute la journée, sauf en montagne, sur les Pyrénées. Là, le ciel sera, c'est vrai, nuageux avec une averse possible, voire un orage l'après-midi. Quelques gouttes également dans la journée sur les Alpes du Sud. Et puis tout ça sous des températures de saison, donc très agréables, hein, vous l'avez dit. 25 degrés, oui, c'est vrai, ce sera à Nantes, par exemple. 24 à Paris et Metz, 21 au Havre, 19 à Cherbourg, 27 à Montpellier et Toulon, 29 à Nîmes, 30 à Agen et même jusqu'à 31 degrés demain à Toulouse.
Merci beaucoup, Peggy. Dans un instant, on va s'interroger comment l'Europe se prépare à l'immigration afghane. Jusqu'à un demi-million de candidats au départ. Peut-on, doit-on les accueillir? On va s'interroger dans un instant avec le patron de Frontex et l'Argence qui surveille les frontières des 27. Il sera notre invité depuis Bruxelles juste après ça, tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier, RTL Soir.
Vous écoutez RTL, 18h, 18 minutes. C'était il y a moins de 24 heures. Les talibans Kalachnikov à la main, fêtent le départ des Américains à Kaboul. Les États-Unis ont donc quitté hier soir l'Afghanistan. Le pont aérien n'existe plus. Pour fuir les islamistes, quitter le pays, les Afghans vont désormais devoir emprunter une route terrestre. Alors l'ONU évoque jusqu'à 500 000 migrants potentiels. On sait que le sujet est sensible. La question est la suivante. Est-ce que l'Europe peut accueillir ces demandeurs d'asile potentiels et comment? Bonsoir Fabrice Leggeri.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le patron de Frontex, l'agence européenne de surveillance aux frontières. Vous venez d'ailleurs de participer à une réunion des ministres de l'Intérieur des 27. Nous allons échanger ensemble dans un instant, juste avant, si vous le voulez bien. Nous allons éclairer nos auditeurs sur ces routes de l'asile avec trois questions maintenant à la brigade RTL. Bonsoir Christophe Decroix.
Bonsoir.
Il y a ce chiffre donc qui reste en tête ce soir, jusqu'à un demi-million d'Afghans candidats au départ. Est-ce qu'il faut s'attendre à une arrivée rapide, massive?
En tout cas, pas pour le moment. On ne constate pas d'afflux massif suite à la prise de Kaboul par les talibans. En réalité, cela fait des années que les Afghans fuient la guerre, soit à l'intérieur même de leur pays, ils sont 3,5 millions de déplacés, soit chez leurs voisins, le Pakistan et l'Iran, où ils sont près de 3,4 millions à avoir trouvé refuge. Donc, pas d'exode massif dans l'immédiat. Entre le 1er janvier et le 20 août, donc quelques jours après la prise de Kaboul, le Haut Commissariat aux réfugiés n'a enregistré que 7300 nouveaux réfugiés dans les pays limitrophes. S'il doit y avoir une pression migratoire, ce devrait être avant tout sur les voisins de l'Afghanistan.
Mais d'ailleurs, dites-nous, comment sortir à pied aujourd'hui d'Afghanistan?
Alors, pas facile. Hein. D'abord, pour des questions de relief, on est dans un pays de montagne, des régions parfois désertiques. Côté météo, il fait encore chaud pour le moment, mais d'ici quelques semaines, ça deviendra de plus en plus compliqué de passer les cols montagneux. Enfin, et ce n'est pas la moindre des difficultés, désormais les talibans contrôlent les principaux postes frontières.
Et ensuite, si on réussit à sortir d'Afghanistan à pied pour atteindre l'Europe, quelle est la route aujourd'hui?
En fait, il y a deux routes migratoires possibles. La plus évidente, c'est celle du sud-ouest par l'Iran, puis la Turquie, la Grèce ou la Bulgarie. Mais ce sont des pays qui se barricadent. La Turquie construit un immense mur à sa frontière avec l'Iran et la Grèce en fait de même à sa frontière avec la Turquie. L'autre route passe au nord, le Tadjikistan et l'Ouzbékistan, des routes montagneuses. Dans les deux cas, ce sont plus de 7000 km de route en étant le plus direct possible pour arriver en France. Et pour les migrants, les routes sont rarement direct. Quand les frontières étaient moins fermées, il fallait déjà, en général, au moins un an à un réfugié pour arriver chez nous.
Merci Christophe. Fabrice Leggeri, je reviens vers vous. Vous, le directeur de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, vous confirmez l'exode afghan ne ressemblera pas à l'exode syrien de 2015 qui, lui, avait été massif soudain?
On peut effectivement penser que ce sera une pression migratoire progressive. Il y aura probablement dans un premier temps de nombreux Afghans qui sont en Iran, qui sont en Turquie ou au Pakistan, qui seront vraisemblablement tentés de se mettre en route vers l'Europe. Tout simplement parce que depuis plusieurs semaines maintenant, l'éloignement des Afghans en situation irrégulière est devenu impossible de l'Union européenne vers l'Afghanistan. Et donc, donc la nationalité afghane, réelle ou éventuellement des imposteurs, des personnes se faisant passer pour afghans, pourront tenter en tout cas leur chance vers l'Union européenne. En ce qui concerne la situation en Afghanistan lui-même, effectivement, pour le moment, il y a beaucoup d'incertitudes et il faudra voir dans quelle mesure des personnes souhaitent fuir.
Expliquez-nous, quand un Afghan va poser le pied dans les semaines ou les mois à venir sur le sol européen, qu'est-ce qui va se passer? Quelle sera la prise en charge, la procédure?
Alors, le rôle de l'agence Frontex, comme agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, c'est bien sûr de surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne et de l'espace Schengen, de soutenir les États membres et donc de contribuer à la détection des tentatives d'entrée irrégulières. Et c'est aussi de soutenir nos États membres sur la ligne de frontière extérieure elle-même. Par exemple, il y a une mission qui sera extrêmement intéressante, c'est de faire les contrôles de sécurité, de vérifier, d'enregistrer, donc de prendre les empreintes digitales, de vérifier l'identité de ces personnes afin de s'assurer de leur nationalité réelle. Mmh. Et puis, il y a le risque terroriste qui sera particulièrement important.
Parlons-en, parce que comment on vérifie? Parce que c'est vrai qu'RTL a pu constater, par exemple, déjà à l'arrivée d'avions français depuis Kaboul vers Abu Dhabi ces derniers jours, que certains exilés étaient partis sans carte d'identité, sans papier, dans la précipitation. Et c'est vrai qu'on entend ce débat qui monte en France et ailleurs. Vous venez de rencontrer les ministres de l'Intérieur des 27. Et si des islamistes profitaient, comme en 2015, du flux de réfugiés pour gagner l'Europe, comment on repère de potentiels intégristes, puisque ce sera votre mission? On sait que le renseignement, la coopération avec les Américains qui ont passé 20 ans sur place, c'est primordial, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui?
Alors le rôle de la mission de garde-frontières, et en tout cas le rôle de Frontex en appui des États membres, c'est d'être en première ligne. Donc par exemple aujourd'hui nous avons 2000 gardes-frontières et gardes-côtes du corps européen qui sont déployés à nos frontières extérieures. Donc le corps continue à recruter et à se développer. Donc ça fait une main-d'œuvre qui va pouvoir aider les États membres à faire des enregistrements, à faire des vérifications par exemple dans le système d'information Schengen, à faire des enregistrements dans la base européenne Eurodac, et à faire aussi des observations donc sur un certain nombre de comportements, un certain nombre d'éléments, mais il faut être modeste, hein, en l'occurrence, ce n'est pas une tâche
facile.
C'est un travail difficile et c'est surtout un travail d'équipe. Je crois que ça, c'est très important de le souligner. Il faut de la coopération européenne, il faut de la coopération internationale et il y a beaucoup de sources de renseignements que les États membres devront utiliser.
Vous parlez de coopération. L'autre question qui va devenir brûlante, c'est la suivante. Comment l'Europe va se répartir les demandeurs d'asile? Parce qu'on se souvient de l'absence de consensus pendant la crise syrienne. Et là, on a l'impression que l'histoire se répète. La Grèce, on l'a dit, construit un mur à sa frontière. La Pologne renforce sa frontière. Clairement, il y a des pays qui semblent déjà dire non, pas question. On ne veut pas accueillir de réfugiés afghans.
Je crois que c'est pas le sens de la réunion à laquelle je viens d'assister, donc qui vient de se terminer il y a quelques minutes avec les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne. Bon, le point presse est en cours et donc je ne déplorerai pas, mais je pense qu'on a pu mesurer que des leçons ont été tirées de la crise de 2015 et il me semble en tout cas que l'on a un bon compromis entre d'une part la nécessité morale et humanitaire de protection d'un certain nombre de personnes afghanes, en particulier les femmes et les jeunes filles, mais aussi les personnes qui ont aidé les missions européennes en Afghanistan. Donc d'un côté, il y a cette obligation de protection humanitaire, et de l'autre côté, il y a la nécessité de protéger nos frontières extérieures de l'Union européenne contre des arrivées de personnes qui seraient éventuellement des migrants économiques, et aussi qui seraient des personnes menaçant la sécurité intérieure de l'Europe, et particulièrement qui seraient liées à des mouvements terroristes.
Vous avez parlé de coopération internationale. Est-ce qu'il faut aussi que l'Europe appelle Joe Biden, parce que les États-Unis ont exfiltré des Afghans, mais surprise, nos auditeurs ne le savent peut-être pas, ces Afghans, ils n'atterrissent pas tous dans les avions américains à Washington. Pour certains, il y a une étape, on les a installés, on les a accueillis, on les contrôle dans les Balkans, un point de contrôle au Kosovo. On sait qu'Emmanuel Macron s'en est ému ce week-end. Est-ce que les États-Unis ne prennent pas assez leur part? Est-ce que ce n'est pas un peu facile de déléguer à des pays tiers aux frontières des 27?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le sujet a été évoqué cet après-midi par certains ministres de certains États membres. Et l'analyse que fait Frontex par rapport à la présence de plusieurs milliers d'Afghans attendant temporairement dans la région des Balkans, c'est qu'effectivement, si les procédures d'immigration vers les États-Unis et les procédures d'asile vers les États-Unis sont longues, la tentation sera très grande pour ces migrants, pour ces personnes afghanes, de se mettre en route vers l'Union européenne, d'autant plus que les réseaux criminels de trafiquants d'êtres humains sont très actifs dans les Balkans, que la route migratoire existe et que donc cette dimension est toujours possible. Alors ce que pourrait faire Frontex, c'est avec nos opérations dans la région des Balkans, nous avons une opération en Albanie, nous avons une opération au Monténégro et nous en avons une en Serbie. Donc en nous appuyant sur nos déploiements dans cette région, qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais avec lesquels il existe un accord entre l'Union européenne et ces pays des Balkans, nous pourrons soutenir ces pays pour nous assurer que ces flux n'existeront pas.
Merci Fabrice Leggeri d'avoir été ce soir notre invité dans RTL Soir. Vous, le patron de Frontex, l'agence européenne de surveillance aux frontières. On rappelle que vous venez de participer donc à une réunion des ministres de l'Intérieur des 27 sur cette crise afghane. Merci d'avoir été l'invité de RTL Soir. Une pause et dans un instant, dans les dessous de l'actu, toute la semaine, ils racontent leur 13 novembre, des documents chocs, poignants, rares, à moins d'une semaine du procès des attentats. Dans un instant, vous allez entendre le patron de la BRI. C'est lui qui a mené à l'époque l'assaut avec ses hommes au Bataclan. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL Soir, 18h30.
RTL Soir, avec Julien Sellier.
Et si vous nous rejoignez à l'instant avec Marion Calais, on refait un point sur les grands titres de l'actualité de la soirée.
C'est un enfant des quartiers nord et à la veille du déplacement de 3 jours d'Emmanuel Macron, la prise de parole de l'archevêque de Marseille, il appelle au réveil des consciences face au trafic et regrette que des populations entières se retrouvent prises au piège de leur environnement. Des convocations envoyées aux plus de 80 ans avec un bon de transport, des équipes mobiles déployées dans certaines communes franciliennes. Nouveau dispositif pour aller chercher les non-vaccinés. Ils sont 10 millions désormais. Mais au moins 4 morts, le dernier bilan du passage de l'ouragan Ida en Louisiane et dans le Mississippi aux États-Unis. Il faudra plusieurs jours désormais pour évaluer les dégâts selon la société qui distribue le courant.
Merci Marion, bonne soirée. Le temps maintenant, Peggy, demain ce sera la plus belle journée de la semaine.
Oui, on peut dire ça Julien, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de la France, ce sera la journée la plus ensoleillée, même si le matin il y aura encore quelques nuages, quelques plaques de grisaille sur un tiers nord, mais tout ça va se dissiper, le soleil va dominer, il sera déjà très présent ailleurs toute la journée. Il n'y a qu'en montagne où le ciel sera plus nuageux sur les Pyrénées toute la journée avec une averse possible, voire un coup de tonnerre. Quelques gouttes également sur les Alpes du Sud, partout ailleurs du beau temps avec des températures qui suivent. 21 à Caen et à Lille, 24 à Paris et Besançon, 26 à Lyon, 29 à Marseille et 31 à Toulouse.
Merci Peggy.
RTL Soir. Mémoire du 13 novembre.
Ils racontent leur 13 novembre toute la semaine dans les dessous de l'actu à cette heure-ci. Vous allez entendre des témoignages puissants, poignants, à une semaine du procès des attentats. RTL est allé à la rencontre de rescapés, de policiers. Leur parole est rare, ils ont vécu en première ligne cette soirée d'horreur, 130 morts à Paris et Saint-Denis. Ce soir, c'est Christophe Molmy qui se confie. En 2015, il était le patron de la BRI parisienne. C'est lui qui a mené l'assaut avec ses hommes au Bataclan. C'est un document RTL.
Il y a des centaines de corps par terre, plus personne ne bouge, il n'y a pas un bruit, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas blessés, fort heureusement, mais qui n'osent pas bouger. À l'étage, il suffisait d'ouvrir un placard électrique ou des toilettes pour trouver plusieurs personnes entassées. On en a vu descendre des faux plafonds, enfin, il y en avait partout, donc ça nous a pris du temps. Et on est arrivé devant une porte qui donnait accès à un couloir dans lequel se trouvaient les loges des artistes. Et lorsque le premier de colonne a voulu pousser cette porte, il s'est entendu hurler qu'il fallait pas le faire et que derrière se trouvait une douzaine d'otages menacés par deux terroristes avec des gilets explosifs, des kalachnikovs qui menaçaient de les tuer. Ça prend un autre tour, forcément. Là, l'urgence, c'est à une tentative de négociation. Après le premier contact, le négociateur m'explique que pour lui, on n'aura pas d'issue favorable. Tout ce dont on est intimement convaincu que ça se passera pas sans casse. Mais pourtant, le préfet immédiatement m'autorise à passer à l'assaut. Le premier de colonne et le bouclier se font engager immédiatement par un des terroristes qui vide un chargeur complet sur le bouclier. Les collègues avancent avec beaucoup de maîtrise pour passer les otages derrière le bouclier, en fait. Et lorsque on a le sentiment que tous les otages du couloir sont sortis, la deuxième partie de l'assaut est donnée. Il y a quelques grenades qui sont lancées pour assourdir les terroristes. Mais durant la progression, le premier de colonne lâche le bouclier qui est poussé sur des roues. Il se retrouve complètement exposé, mais pourtant il continue. Du coin, il voit ressurgir un des terroristes au bout. Il lui tire dessus. En fait, il le blesse et le terroriste tombe au sol et se fait sauter. Ça a de l'importance parce que son gilet explosif ne saute pas lorsqu'il est debout. Si ça avait été le cas, le blast, la projection serait partie devant. Les collègues de devant auraient sûrement été touchés. Les collègues continuent à avancer. Ils découvrent le deuxième terroriste, en fait, qui a été soufflé par l'explosion du premier, qui cherche son détonateur et le neutralise avant qu'il ait le temps de se faire sauter. Voilà. L'assaut est terminé. J'essaye de me dire que, au final, du moment où on est arrivé, on a sauvé des vies, quoi. Mais bon, c'est difficile, par ailleurs, de masquer le reste. Le reste, c'est 90 morts. C'est hallucinant.
Le témoignage artéal de Christophe Molmy, qui était en 2015 le patron de la BRI parisienne. C'est donc l'homme qui a mené l'assaut au Bataclan. À quelques jours maintenant de ce procès des attentats du 13 novembre, vous allez entendre de tels documents tout au long de la semaine à cette heure-ci et dans tous vos rendez-vous d'infos sur RTL. Demain, le récit de Grégory Rebenberg, patron de la Belle Équipe, une des terrasses attaquées.
RTL Soir avec Julien Cellier.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et on va maintenant s'occuper de votre soirée, si vous le voulez bien. On va essayer de vous changer les idées aussi. Vous connaissez le principe, tous les soirs à cette heure-ci, les conseils précieux de la bande de LVT. Qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'est-ce qu'il faut regarder à la télé? Qu'est-ce qu'il faut aller voir au ciné? Ce soir, c'est cinéma, justement, avec vous. Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Avec un film en approche.
Mais oui, parce que demain sort Un triomphe d'Emmanuel Courcol, avec dans le rôle principal Kad Merad.
Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus?
Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries.
Ah d'accord. C'est pas pareil.
Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
On va faire des sketchs, nous, monsieur?
Bah ouais, nous, on va faire du stand-up.
Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre.
Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu.
T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu.
Le grand auteur de théâtre du 20e siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde? J'espère des lendemains meilleurs, ça vous parle pas ça?
Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec.
Je suis là pour les tirer vers le haut.
Oh, vas-y, c'est relou ton truc.
L'histoire d'un triomphe, c'est donc ça, c'est donc celle d'Étienne, un comédien qui galère, qui va avoir le projet fou de monter En attendant Godot, la pièce de Samuel Beckett, avec 5 détenus pour la jouer ensuite dans un vrai théâtre.
Alors pourquoi En attendant Godot? C'est vrai que ça peut sembler un peu... relou, dites-le. Aride au départ, non?
Mais oui, c'est vrai. Mais n'empêche que cette pièce, qui a été jouée dans tous les pays du monde et dans toutes les langues, je le rappelle, eh bien, résonne de façon incroyable pour des prisonniers dont le quotidien est souvent le vide, l'attente et l'absence, bien sûr. Ce qui est le thème d'En attendant Godot. Mais Un triomphe, c'est pas du tout un film sur la pièce de Beckett. Hein. On en aperçoit quelques répliques, parfois dans des scènes de répétition et de travail, c'est tout. Ce film, c'est d'abord une histoire d'hommes et de rencontres.
Et on peut ajouter que le film est tiré d'une histoire vraie.
Et c'est là que tout devient magique. Parce que c'est vrai, en 86, un metteur en scène suédois avait justement fait ce pari de monter En attendant Godot avec des détenus. Le spectacle avait connu un tel succès que la joyeuse troupe était partie en tournée dans tout le pays, jusqu'au Théâtre Royal de Göteborg, pour leur dernière, où il se passa quelque chose d'assez dingue, mais que évidemment je ne vais pas vous raconter puisque c'est la fin du film.
Ah bah non,
ce serait quand même dommage. Mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Bref, Un triomphe, c'est un film tout à fait réussi, profondément humain, drôle, touchant. Les acteurs sont formidables. Le film ne nous emmène jamais là où on pensait aller. On est tout le temps cueilli par cette histoire vraie, je le rappelle, et par la mise en scène. On ne s'ennuie pas une seconde. C'est génial de retourner au cinéma. Ça sort demain et je veux bien y retourner avec vous, Julien, si vous voulez.
Eh ben, très bien. Je paye le popcorn. Ça vous va?
Génial.
Super. Merci beaucoup, Julia. Un triomphe avec Kad Merad à aller voir donc cette semaine au cinéma. Merci, Julia. On va marquer une petite pause, les amis, dans RTL Soir avant On défait le monde.
Oui.
Jusqu'à 19h, le plein de curiosités, le plein d'infos avec un autre regard, celui de Cyprien Signy. Et sa bande, ça s'installe en studio.
On est là.
Céline Landreau, Laurent Tessier, Turasquin. Bonsoir les amis. Ouh. Dans un instant, In Vino Veritas. Vraiment?
Vraiment.
Est-ce qu'il faut se méfier des foires au vin?
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.